Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all.
On reçoit aujourd'hui la jeune et talentueuse Mathilde Alloin, qui vient nous parler de féminité, d'émancipation, mais aussi de technologie et des valeurs qu'elle a placées au cœur de sa marque de lingerie, Skinswear. Une marque moderne et affirmée qui a déjà su nous séduire. Bonjour Mathilde.
Bonjour Nico.
Hello Mathilde.
Bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir.
On aimerait que tu nous racontes un petit peu ton parcours et que tu nous parles après de la marque que tu as lancée. Et voilà.
Ok, avec grand plaisir.
Donc Mathilde, tu viens d'où? Tu as quel âge?
Je suis bretonne, j'ai 27 ans et ça fait 20 ans que j'habite à Paris.
Ok. Okay. Bon, t'es officiellement parisienne, c'est bon.
Ouais, je suis... Oui, mais mon cœur est resté un petit peu en Bretagne quand même.
Toujours les Bretons ont un attachement tellement fort à la Bretagne, c'est un truc de ouf.
Ouais.
Ok, et... donc raconte-nous un petit peu le parcours scolaire, comment ça se passe, ce que tu fais.
J'étais au lycée à Paris, au lycée Montaigne, et je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire après le bac. Je voulais éviter les parcours traditionnels, en tout cas que je voyais beaucoup autour de moi, c'est-à-dire le droit ou les écoles de commerce.
Ouais.
Et je pense que j'avais une forte sensibilité artistique, même si je n'avais pas du tout de créatif autour de moi, dans ma famille ou dans mes proches. Donc
ouais.
J'y ai pas forcément pensé automatiquement, mais j'avais quand même cette partie là en moi. Donc j'ai décidé de regarder un petit peu du côté de la mode qui m'intéressait à l'époque. Je suis allée à l'école S-Mode.
C'est quoi ton premier contact avec la mode, quoi? C'est comment tu découvres la mode? C'est par l'habit, la photo?
C'est par l'habit, en fait. Je kiffais
m'habiller
et me faire des looks un peu cool. Et je regardais beaucoup les magazines de mode, le Elle, etc. Et en fait, donc j'avais un vrai intérêt pour ça. Et du coup, j'ai décidé d'explorer un peu plus cet intérêt et de comprendre si c'était quelque chose qui pouvait me plaire
professionnellement.
Mmh. Exactement.
Donc, tu t'intéresses à l'ESMAT, c'est quoi le processus d'entrée
En fait, c'est tu as un rendez-vous et un petit examen à l'entrée.
Ok, c'est post-bac, du coup, tu peux y entrer directement sans formation.
C'est ça. Exactement. Donc moi, évidemment, je n'avais pas du tout de dossier créatif ou quoi que ce soit. C'était vraiment une première approche. Et c'est une école qui t'offre la possibilité de rentrer, même si tu n'as pas encore de...
De book, de choses à
ouais,
présenter.
Tout à fait.
Ok, ok.
Donc les deux premières années, c'est général. Donc tu fais du vêtement femme, tu fais des jupes, des chemisiers, etc. Tout le monde fait les mêmes dossiers, les mêmes choses. Et en fait, c'était pas terrible. Enfin, ça m'a pas trop plu. J'étais pas hyper à l'aise avec les vêtements, les grands vêtements ou les vêtements d'extérieur. Du coup, j'ai rencontré des super amis et c'était très intéressant de me plonger beaucoup plus dans ces milieux artistiques que je connaissais très mal finalement. Mmh. Mais par contre, c'était pas un match. Et la dernière année, il faut se spécialiser. Donc tu choisis ou du luxe, ou de l'enfant, de la maille, de la lingerie. Il y a plein de choix différents.
Okay.
Et ma prof m'avait dit à l'époque, tu devrais regarder un peu la lingerie parce que dans ce que tu dessines, j'ai l'impression que ça s'en rapproche pas mal, ça pourrait te plaire. Du coup, je choisis de faire de la lingerie. Et à ce moment-là, j'étais avec une prof géniale et j'ai vraiment... je me suis retrouvée complètement dans cette... discipline, dans cette création, dans ces produits, qui pour moi justement étaient bien au-delà du produit parce que c'était vraiment et c'est vraiment un symbole. Et c'est en ça, je pense, que je m'y suis beaucoup plus retrouvée que dans le vêtement extérieur, parce que la lingerie, c'est un élément qui est sur le corps de la femme. Mmh. Donc c'est ce qu'il y a de plus intime dans le vêtement. C'est quelque chose qui protège le corps, mais c'est quelque chose qui le dévoile aussi, selon la façon dont on l'utilise. Et qui doit être confortable, qui doit nous respecter. Donc j'ai vu tout de suite, en fait, même dans mon processus créatif, j'ai été beaucoup plus inspirée. J'arrivais à créer beaucoup plus facilement. Je me limitais pas aux produits, mais je partais vraiment du corps de la femme et non pas du produit. Souvent, les stylistes dessinent un produit, par exemple une culotte ou un soutien-gorge, et vont se dire « Tiens, là, je vais mettre une découpe ici. » Ou moi, je fais pas du tout comme ça. En fait, je pars vraiment du corps de la femme. Je vais dessiner des formes selon différentes inspirations, souvent de la nature. Donc, ça s'appelle le biomimétisme. Et à partir de ces formes, au bout d'un moment, je me dis « Oui, là, il faut que, en fait, que ça se transforme en lingerie. » Et du coup, j'adapte les découpes, les détails de la lingerie pour transformer en produit.
Ok.
Donc en fait, j'ai adoré cette année parce que j'ai compris, j'ai pris confiance en ma créativité parce que je trouvais ça beau, j'étais fière de ce que je faisais.
C'est beau que t'aies continué parce qu'il y a des gens, au bout de deux ans, si c'est pas un match, ils auraient quitté l'école ou ils auraient fait autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait rester ?
Ce qui m'a fait rester...
C'est quoi, l'envie d'être graduate à la fin ou
non,
même pas?
Je pense que c'était cette curiosité pour... quand ma prof m'a dit ça, en fait, j'ai voulu essayer. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je suis d'une famille... mon père était militaire, commando. J'ai pas du tout... Comme
say no more, say no more.
C'est pas des lol, hein. Commando.
Et c'est quelqu'un de d'incroyable, de très gentil, commando marine. Voilà.
Wow. Mais avec une rigueur, une discipline.
Oui, et puis en fait, c'est des milieux. Et puis en plus, il a dirigé l'école des fusiliers marins. Donc c'est vraiment une figure. J'ai grandi avec une figure paternelle très forte, avec une mère femme au foyer qui s'occupait des enfants, une famille... On était quatre enfants. Et en fait... et du coup, j'ai été entourée de beaucoup de structures, ce qui est absolument génial et je suis vraiment très très reconnaissante pour ça. Mais du coup, je pense qu'il y a toute une partie créative en moi, artistique en moi
qui n'a pas été libérée forcément.
Voilà, qui n'a peut-être pas osé s'exprimer. Mmh. Et quand je me suis retrouvée justement, quand ma prof m'a dit « Tiens, essaye la lingerie », ça a été très difficile pour moi d'accepter. Et pour mes parents aussi au début, pour être honnête. Et en fait, c'était ça, quoi.
T'as eu un déclic.
En fait, c'était ça, vraiment. Pour la première fois.
La révélation, quoi.
Ouais. Pour la première fois, je me sentais complètement dans mon élément. Et je pense que ça a été mon passage de petite fille à femme, d'enfant à femme, en fait, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie, besoin d'être au service des femmes et de les glorifier. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Après, j'ai aussi pris conscience de l'imitation de ce métier, de cette industrie. Par exemple, en fait, on doit dessiner des silhouettes quand tu fais ton dossier de style. Et j'avais choisi, je m'étais inspirée d'une mannequin, Kate Upton, qui est une mannequin... très belle, un peu pulpeuse. Et ma prof m'avait dit non, elle est trop grosse, il faut une fille plus fine.
Oh, wow.
Du coup, j'ai compris qu'il y avait des choses qui me dérangeaient aussi. Donc ça a planté des petites graines dans ma tête.
Ouais, parce que c'est vrai que l'inclusivité aujourd'hui, enfin tout le monde en parle, mais c'est quelque chose d'hyper récent.
Oui,
vraiment.
Tout à fait. Ah,
et
ouais,
même,
ouais.
Même sur la lingerie, ce qui est quand même choquant, puisque la lingerie est censée s'adapter au corps des femmes.
Mmh,
c'est
ouais.
Ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a jamais eu... jusqu'à dernièrement, et c'est passé par des scandales, des trucs comme ça, comme on a pu voir sur Victoria's Secret, où vraiment c'était très peu de communication sur autre chose que des standards de beauté.
Complètement, et qui sont très compliqués à atteindre, et puis en fait ça devrait pas être le but, mais la femme, le corps de la femme a été très sexualisé, et c'est devenu, ça a atteint un niveau où je
pourquoi
pense que...
Tu pourquoi penses, ouais, pourquoi tu penses l'origine du mal.
C'est une bonne question. Je pense que c'est autant la faute des hommes que la faute des femmes. Parce que les femmes ont laissé... en fait, elles font partie de ça aussi, elles l'acceptent. Elles s'infligent parfois beaucoup plus de choses que les hommes ne leur infligent. Je pense qu'il y a une déconnexion du corps qui a été faite dans notre culture à un certain moment. Et par exemple... je prends souvent cet exemple, on n'est pas une culture, on n'a pas de hammam, on n'a pas vraiment, on n'a pas de lieu où on voit des corps dans leur diversité. Et du coup, je pense que d'une part, ça nous a éloignés de la compréhension de notre corps et d'une certaine sororité où en fait on comprenait mieux de quoi on faisait partie. Et d'autre part, le fait que pendant, enfin c'est assez récent qu'il y ait des femmes au pouvoir à tous les niveaux, et elles sont encore très sous-représentées par rapport au nombre de femmes sur Terre et au nombre d'hommes qui sont à la tête d'entreprises, etc. On est quand même sur des gros écarts, et le fait que les hommes soient à la tête de marques dans cette industrie, la majorité des marques de lingerie sont dirigées par des hommes. Je pense que forcément ça implique qu'ils veulent faire le mal, mais en fait qu'ils n'ont pas accès à plein d'informations, ils ne comprennent pas. Un homme ne comprend pas ce que c'est que d'avoir des seins. Un homme ne comprend pas ce que c'est que la douleur qu'on peut éprouver à certains moments dans le mois. Il peut pas comprendre. Il peut être empathique et l'envisager, mais il pourra jamais vraiment le ressentir. Et du coup, je pense que ça a créé un peu des dérives où que la femme a laissé faire, où on est allé vers des produits qui étaient là pour modeler le corps au lieu de le respecter et au lieu de juste le soutenir comme il est, et des images un peu extrêmes de ce que devrait être une femme aujourd'hui. Donc ça, c'est heureusement en train de changer, comme tu le disais. Mais du coup, quand j'étais étudiante, c'était encore pas mal le cas. C'était encore le body positivisme, etc. C'était pas encore tout à fait d'actualité. Et j'ai repéré déjà, à l'époque, des choses qui me plaisaient moyennement. Donc, j'ai fini S-Mode avec une collection dont j'étais assez fière, qui a fini sur le bureau de style de pas mal de marques, je crois.
Trop bien. Très très inspiré, on dira pas les noms.
Voilà, on me l'avait dit. Et il y avait une seule marque de lingerie que je trouvais intéressante, dans laquelle je voulais faire un stage à l'époque. Donc j'ai contacté la directrice artistique, que j'ai assistée ensuite pendant 2 ans.
C'était quoi?
La marque RS. Nice. Que je trouvais belle parce que je la trouvais très simple.
C'est vrai.
C'est la seule qui, d'un point de vue stylistique, m'intéressait.
Donc, et qualité aussi, c'est connu pour
être assez qualité aussi, et aussi du fait que, à l'époque, je me souviens très bien, et je le pense toujours aujourd'hui, je voyais qu'il y avait vraiment deux extrêmes dans la lingerie. C'était de la lingerie hyper sexualisante ou de la lingerie petite fille. Et en fait, je voyais pas forcément la variété qu'il peut y avoir dans la mode, dans le prêt-à-porter, dans la lingerie. On peut citer plein de marques de prêt-à-porter, plein de marques hommes, femmes, luxe, qui ont des univers incroyables et en fait qui reposent sur ces univers, mais pas en lingerie.
Ouais, c'est vrai qu'il y a 2-3 univers max.
Il y a quelques créateurs, mais en fait, je trouve pas que ça resplendisse comme dans d'autres domaines dans la mode. Donc je crois que c'est une place que je souhaitais prendre, en tout cas c'est comme ça que moi je concevais la façon de créer. Et je pense qu'à l'époque déjà je me retrouvais pas forcément dans aucune de ces marques existantes, mais la marque RS je la trouvais quand même assez basique et élégante. Ça me plaisait, avec des jolies lignes. Donc j'ai contacté la directrice artistique, que j'ai assistée.
Comment t'as pitché? Comment tu te retrouves de là? Comment tu trouves le numéro? Comment c'est? Parce que tu dis dans ta famille, donc c'est pas un ami de ton père.
Probablement pas.
Sûrement pas.
Non, en fait j'avais une amie, ma meilleure copine à l'époque, dont la maman était rédac chef d'un magazine féminin. Et du coup, j'ai appelé sa maman, je lui ai demandé le numéro de la DA et elle me l'a filé. Ouais, j'ai toujours été très... Ouais, souvent, je ne me fixe pas vraiment de limite dans... Quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je suis persuadée que c'est possible, en fait. Et du coup, j'y vais. Enfin, je trouve un moyen.
C'est un bon mindset, ça.
Ouais. Ouais, j'ai toujours fait ça. Et ça a souvent marché.
C'est cool, ça.
Du coup, elle m'a dit « Ah bah oui, super, on peut se rencontrer chez moi. » Je l'ai rencontrée, je l'ai assistée pendant 2 ans. En parallèle de ça, j'ai fini mes études à S-Mode.
Ouais.
J'ai commencé un bachelor de gestion de l'innovation au Conservatoire des Arts et Métiers.
Génial.
Qui était super intéressant parce qu'à l'époque, même si je comprenais que j'aimais la création, je ne voulais pas me limiter à ça parce que je savais qu'il y avait d'autres choses qui demandaient de vivre en moi et de s'épanouir, et j'avais besoin d'avoir une compréhension peut-être plus globale de l'industrie, où j'avais déjà un désir d'innover, de changer les produits dans la façon dont ils étaient conçus, et en même temps peut-être de créer. En fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que je pouvais créer que autour d'un projet qui
business.
Serait...
D'un projet business, en fait.
D'un projet perso, en fait. Mais du coup, oui, business. En fait, je ne me reconnaissais pas suffisamment dans ce qui existait. Et du coup, il y avait quelque chose en moi qui avait un besoin de construire quelque chose de
nouveau qui t'appartienne.
De nouveau, c'est ça.
Ok. Parce que l'ESMAD, du coup, il y avait pas forcément de formation business. Parce que tu parlais de marque, d'univers de marque, ce qui est une chose et qui correspond plus au côté créatif. Mais construire une marque, gérer, je sais pas moi, un business model, un business plan, construire des collections, ce genre de choses, on vous l'apprend ou pas nécessairement?
Alors en fait tu as deux pôles, tu as vraiment le pôle, tu peux choisir de faire des études stylisme modélisme, ouais, créateur de mode ou alors fashion business, les deux sont séparés, et en revanche tu vois on a des cours de prod, des choses comme ça dans, ouais, dans la partie création, mais c'est quand même assez minime. Et du coup, pour le coup, S-Mode, par contre, offrait une passerelle via le CNAM qui permettait par la suite de donner accès à des masters et d'autres études. Donc, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire. Donc, le CNAM, c'était super. Ça m'a permis de sortir un petit peu de la partie juste école de mode et d'aller vers d'autres personnes, d'autres profils, d'autres choses, de réfléchir à comment concevoir des projets innovants, où trouver l'inspiration justement pour innover et qu'est-ce qui était possible de faire. Gérer des équipes, des projets. Donc c'était super intéressant. En parallèle, je continuais d'assister Valérie de la Fosse, donc qui était chez RS. Et
tu
ensuite,
faisais quoi pour elle en tant qu'assistante? C'était quoi ton rôle? T'étais impliquée dans quelle partie de son job?
J'étais impliquée dans des recherches d'idées, de styles, de dessins, de produits, des moodboards, des... Voilà. Après, ça aussi de voir ces matières, etc. On allait voir tout le processus en fait de création du produit. Donc c'était très intéressant. Et puis j'étais à bonne école parce que c'est quelqu'un qui a une dame qui a une très belle carrière. Donc j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Et je suis partie à Londres au London College of Fashion, où je suis partie un an faire un master de management de la mode, tout en continuant à assister Valérie à distance, du coup.
Ok.
Et en fait, cette année-là a été très enrichissante parce que je me suis ouverte à beaucoup de cultures différentes. Parce que Londres, il y a des nationalités, enfin c'est beaucoup plus divers. Et on avait des projets avec... un peu dans des domaines différents, design thinking, vraiment management, mais on était assez libre dans le choix qu'on avait de nos projets. Et à ce moment-là, je me souviens d'un projet qui m'a assez marqué, qui était, en fait, on pouvait collaborer avec une entreprise de notre choix et faire un projet collaboratif.
Okay.
Et j'ai fait ça avec une fille de ma classe dont le père... travaillait avec beaucoup d'associations caritatives, dont une qui s'appelle Orchid Project, qui est une association qui milite contre l'excision féminine.
Ah oui,
donc l'excision féminine, c'est quand on coupe le clitoris des femmes pour pas qu'elles aient de plaisir, et voilà, parfois ça, on leur coupe même les parties intimes. C'est assez hardcore, et en fait c'est pas religieux comme on pourrait le croire, c'est culturel. Donc c'est vraiment des femmes qui elles-mêmes veulent le faire à leurs filles. Enfin, c'est... ouais, c'est assez hardcore. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire de la lingerie pour cette association et qu'on la revende, en fait.
C'est hyper beau. Donc, c'est vraiment donner un côté engagé et puis soutenir une cause.
Ouais. Et j'ai trouvé ça, au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre, du coup, de faire de la lingerie, alors que justement, c'est un sujet aussi intime. Et en fait, ça a eu pas mal de sens. On a fait des culottes très basiques avec leur logo brodé. Donc je suis allée au Maroc rencontrer des usines. Enfin, j'ai commencé à me plonger un petit peu plus dans le concret, dans comment est-ce que tu conçois un produit, etc. Et puis je suis rentrée de Londres, j'ai fait de la vente au bon marché en lingerie pendant un été.
Ouais, c'est hyper intéressant,
ce qui était super intéressant parce que j'ai vu les comportements d'achat, ouais, j'ai vu les marques, quel type de clientes elles avaient, etc. Et ensuite, je me suis associée avec une fille qui était d'un background un peu plus commercial et qui avait bossé dans l'impression 3D. Et en fait, on a monté une start-up autour de l'idée de créer un produit plus adapté en utilisant les techniques 3D, de la lingerie plus adaptée au corps des femmes.
Ok.
Donc on a fait ça ensemble pendant quelques années. Ça a pas très bien fini. En fait, enfin, comme beaucoup d'associations, finalement, on s'est rendu compte que on n'avait pas les mêmes visions et pas les mêmes éthiques. Du coup, on a fini par se séparer.
C'est dur de trouver quelqu'un avec qui s'associer. Hein. C'est,
ouais.
Sur le long terme, tu vois les différences de valeurs souvent.
Mmh. Ouais, exactement. C'est très dur. Et puis, je pense qu'on était jeunes aussi. On avait 22 ans. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'affect. Mmh.
Et puis, c'est ta première aventure entrepreneuriale. Ouais. C'est toujours.
T'es beaucoup moins lucide, ouais. Beaucoup moins réaliste. C'est plus émotif. Et c'est très beau. Mais c'est vrai que.
Ouais, et puis c'est plein d'apprentissage aussi. Il ne faut pas forcément le voir de manière négative.
Ah, mais hein. Complètement. Complètement. Moi, je suis ravie de cette aventure. Et je pense qu'on a toutes les deux énormément appris. Mais voilà, il y a un moment où ouais, les valeurs ressortent. Mmh. Et je pense que tu ne peux pas te trahir. Et on n'avait toutes les deux pas envie de se trahir. Donc on s'est dissociés. Et en fait, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler avec des ingénieurs, des designers 3D, des équipes techniques qui ont souhaité continuer à travailler avec moi.
Ouais, donc juste la marque ne disparaît pas complètement. C'est une marque ou c'est un projet à ce stade-là?
C'était pas une marque, justement. C'était vraiment okay. Une start-up, en fait. Et au moment de la transformation.
Un truc de tech.
Pardon?
Un truc de tech.
Ouais, donc, tech, complètement. Okay. Tech. Et en fait, au moment de le transformer en marque, on n'avait pas les mêmes visions.
D'accord.
Donc on s'est dit non, on se sépare.
Donc là, tu récupères un petit peu le bébé quelque part.
Donc moi, je recrée mon
tu
bébé.
Tu repars de zéro, du coup.
Hein?
Tu repars de zéro, du
je
coup.
Je repars de zéro.
En
je repars de
les
zéro,
connexions
sans rien,
avec les
sans
gens.
Personne. Et en fait, du coup, je vois ces personnes avec lesquelles j'avais commencé à bosser, qui me disent « Écoute, nous, on te suit ». Ça m'a donné malgré la douleur de cette dissociation, ça m'a donné vraiment un coup de boost et de confiance et je me suis dit ok, en fait voilà, l'envie elle est toujours là, j'ai des équipes Chamé qui sont là aussi, donc on va y aller.
Ça n'a pas été un stop, ça aurait pu être un stop en fait.
Ça a été pendant 6 mois une réflexion.
Ok.
Je me suis dit ok, bon, parce que c'est un échec quand même, tu le vis comme un échec.
Sur le coup, je pense, ouais.
Ouais.
C'est très chaud aussi de la culture française, de trucs de... Quand quelque chose s'arrête, que c'est un échec. C'est vraiment qu'en France, tu vois, ou aux États-Unis, tu vois les choses comme une étape. Ok, ouais. ça n'a pas marché, je rebondis pour l'autre chose. Mais c'est vrai qu'en France, on a ce truc de... T'as planté une boîte ou une aventure entrepreneuriale s'arrête, c'est un échec, comme si t'avais raté ta vie, alors que pas du tout.
Et même,
le parcours de tous les entrepreneurs, c'est ça, quoi.
Tu peux aller plus loin que ça aux États-Unis, tu ne trouves pas d'investisseurs. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des investisseurs qui investissent dans des boîtes où les fondateurs n'ont pas déjà eu plusieurs échecs avant.
Bien sûr.
Ce qui est logique, en fait.
Parce que c'est juste la réalité.
T'as pas pris la leçon, on revient plus tard.
Mais non, mais c'est comme, moi, je prends souvent l'exemple, tu vas pas te marier avec la première personne que tu dates. Mm. Tu vois. Enfin, en général, t'as quand même besoin d'expérience. Donc, difficile. Je pense que tu prends un gros coup dans ton ego aussi à ce moment-là.
C'est ça, je pense que c'est humainement un chose,
ouais.
C'est difficile.
Et puis, ça fait du bien sur du long terme. Et je décide de commencer à travailler sur Skinswear.
Ok.
Yay, on y arrive.
Je vais faire un petit disclaimer parce que j'ai envie que les auditeurs le sachent. Tu es actuellement en train de lever des fonds pour ce projet dont tu vas nous parler. Et nous, So et moi, avec la boîte, on a prévu d'investir dans la boîte. Parce qu'on a eu un vrai coup de cœur. Donc voilà, c'était juste pour être totalement transparent avec nos auditeurs.
Merci. Voilà.
Donc Skinswear, genèse.
Ouais, et je suis ravie.
Merci.
Merci.
Donc Skinswear a vu le jour avant le Covid, avant le confinement. Et j'étais toute seule. Du coup, j'avais commencé à dessiner ma première collection. J'ai travaillé avec une modéliste pour la mettre au point. J'ai du coup bossé avec un ingénieur pour créer un algorithme paramétrique. Mm-hmm. Donc, en fait, cet algorithme permet de créer des produits pour chaque femme sur mesure à partir de données 3D, donc à partir de scans 3D.
Okay.
Donc, en fait, tu donnes un scan 3D.
Quand tu dis tu donnes un scan 3D, c'est qui? C'est la cliente,
en 3D,
c'est toi?
Voilà, la cliente se scanne en 3D.
Okay.
Donc que ce soit qu'elle le fasse elle-même ou que quelqu'un d'autre le fasse, une fois qu'on a récupéré ce scan 3D, l'algorithme, comme les algorithmes sur Instagram par exemple, ils vont voir, identifier où sont tes yeux, où est ton nez, où est ta bouche, et créer quelque chose à partir de ça.
Les filtres, tu parles.
Oui.
Okay.
En fait, c'est du machine learning, c'est la même chose. Ils identifient donc certains paramètres, certains points, et ils vont réussir à créer quelque chose pour chaque personne, en fait. Donc, mon algorithme crée, en l'occurrence, des armatures de soutien-gorge qui sont adaptées à chaque sein. C'est la première étape. L'idée, c'est que bientôt, on puisse aussi faire tout le reste du soutien-gorge, toute la lingerie, sur mesure, en utilisant d'autres procédés. Aujourd'hui, on travaille avec l'impression 3D pour ces armatures. Et là, on est en développement avec d'autres procédés pour pouvoir aller vraiment sur du complètement sur mesure sur tous les produits. Donc, j'ai développé ça. Je dessine ma première collection. Et là, bim, Covid, confinement avec mes parents.
Tu le passes où ton confinement, du coup ?
En Normandie.
Ah, okay.
Et c'était... un peu le jour et la nuit de réussir à me mettre autant dans ce projet et en même temps d'être de retour avec mes parents. Ouais, tu sais, de pas pouvoir en sortir, c'était chargé émotionnellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la société que j'ai créée s'appelle The Woman Project et je veux appeler à ce moment-là la marque The Woman Project, naturellement. Et en fait, j'avais juste lancé l'Instagram, mais il n'y avait encore rien. Et là, je me dis, mais j'ai pas, enfin, qu'est-ce que je vais parler de lingerie là ? Enfin, les gens, ils s'en foutent en fait. On n'a pas envie de, on n'a pas envie de parler de lingerie. On est dans quelque chose de beaucoup plus urgent, de beaucoup plus humain. Donc, d'une part, il y a mon pote Afif qui m'appelle et qui me dit, écoute, je viens de créer un truc, ça s'appelle J'ai besoin d'eux. C'est pour aider les gens là pendant le Covid qui sont dans des situations plus à risque. Est-ce que tu veux m'aider ? Je dis, ok, grave. Donc, en fait, je passe une grosse partie de la journée sur cet asso. À mettre en relation des femmes battues avec des centres d'accueil.
Ouais, ça c'est un gros sujet pendant le confinement.
De la redistribution de tous les restos qui ne pouvaient plus vendre leur nourriture, enfin donner leur nourriture, donc qui la redistribuent. Donc j'aide beaucoup à FIF là-dessus. Et en même temps, je me dis, The Woman Project, en fait, pour l'instant, ça va être une communauté. Ça va être un média et je vais mettre des femmes en avant pour garder un lien entre les femmes. Et c'est un moment où on est tous tellement à la fois désespérés et perdus. Parce que sincèrement, on a tous été perdus en fait. Où suis-je dans le monde, dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça a du sens ? Que je vais mettre en avant des profils de femmes que je trouve inspirants pour pouvoir inspirer les autres. Parce que depuis le départ, j'ai quand même cette vision au-delà du body positivisme qui est, dont on a parlé tout à l'heure, de vraiment montrer les femmes dans leur diversité, les corps dans leur diversité. J'ai une volonté d'aller au-delà, j'ai vraiment un souhait, c'est que les femmes se... je ne sais pas quel mot utiliser, mais s'incarnent en fait. C'est-à-dire qu'elles ne se limitent plus à leur corps, parce qu'elles font encore beaucoup. Quand on dit « mais toutes les femmes sont belles », mais en fait on n'a pas envie d'être que belles peut-être, et qu'elles puissent s'appréhender, se comprendre comme plus que ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire pour changer ce que je peux à mon échelle, qui j'ai envie d'être en fait, au-delà de à quoi j'ai envie de ressembler.
Ouais, comment tu valorises au-delà du corps ?
Ouais, exactement. De la même façon que tu, en fait, tu réfléchis pas au handicap de Frida Kahlo ou Greta Thunberg, en fait, on s'en fout à quoi elle ressemble. Ouais. Toutes ces femmes qui, tu vois, qui incarnent vraiment des choses, en fait, et qui ne se limitent pas à leur apparence. Et je pense qu'on a besoin de figures féminines qui sont comme ça et qui vont inspirer les autres à accorder moins de temps, parce qu'on accorde un temps fou à notre apparence, et moins de temps psychique aussi, qui résulte souvent dans pas mal de souffrances. Voilà, The Woman Project, je commence à faire des lives, des interviews, je mets en avant des nanas, enfin j'alimente le feed en me disant bon bah à un moment peut-être que je le transformerai en marque quand je voudrais lancer la marque, et en fait je me dis bah non, parce que je vais pas, c'est une communauté et en fait les nanas qui sont là, elles ont pas forcément envie de voir de la lingerie, donc je vais séparer les deux. Donc The Woman Project existe toujours, c'est un peu on hold, l'idée c'est de, enfin je continue à poster des choses mais je voudrais le développer. Et pour que ça se rejoigne sûrement. Et donc, je lance Skinswear. Je contacte une copine que je connaissais pas très très bien, s'appelle Maïwenn Bourcelot, qui était à l'école en Suisse. Très bonne école.
Mmh. École de photo.
Ouais. Et j'avais vu quelques photos parce qu'elle ne partage rien.
Elle fait partie de ces photographes qui contrôlent tout, qui ne postent rien.
Tellement exigeante avec elle-même, tellement perfectionniste et tellement talentueuse. Et en fait, je me dis, j'ai trop envie qu'on bosse ensemble, qu'elle fasse la première campagne de la marque. Donc, on shoot la première campagne chez moi en Normandie. On trouve des nanas géniales, mais c'est vraiment la débrouille, tu vois.
Pas de le casting bien. Était ouf. Moi, c'est là que je vous ai découvert et je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, le casting était génial.
Les images sont sublimes. Ouais. Enfin, c'est quand
vraiment, je me suis pris une grosse claque. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à t'envoyer des DM.
Ouais,
ça fait
vrai.
Des mois hein, qu'on doit se voir et on s'est vu ces dernières semaines, mais c'est vrai que moi, j'ai pris une grosse, grosse claque. Et j'ai fait beaucoup de casting en lingerie. Donc c'est un univers que je connais assez bien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé tes images tellement fraîches et le casting tellement parfait. Je me suis dit, ok, qui est derrière cette chose?
On a bien bossé à ça et on a eu de la chance parce que on a fait des rencontres super et qu'en fait, le projet parlait aux filles. Et du coup, on l'a fait avec très très peu de moyens. Et on y a passé beaucoup de temps et ça a été un moment... génial, on a passé 2 jours à la campagne chez moi et en même temps, quand j'ai vu les photos, j'étais...
Même toi, t'as été...
Trop bien.
Et maintenant, quand je les regarde, je me dis waouh. Donc ça a bien marché avec Maïwenn, j'étais vraiment contente de rencontrer quelqu'un. Je me suis dit, voilà, c'est une personne qui va, si elle le souhaite, qui peut vraiment avoir sa place dans l'aventure. Donc on fait ça. Ensuite, un copain qui est... un mentor et une grande source d'admiration pour moi en tant qu'entrepreneuse qui s'appelle Sébastien Kopp, qui est le fondateur de la marque Veja et de la boutique des boutiques centre commercial, qui me suit depuis plusieurs années, qui me conseille, qui est un super conseiller parce qu'en fait il est no bullshit, il est très sincère, il est très franc et il fait pas de compromis dans sa vision de la mode et il a réussi à bâtir quelque chose de très beau et de très grand en respectant ses valeurs du début à la fin et ça c'est hyper impressionnant. Donc je vois Sébastien et ça faisait plusieurs mois qu'on se disait, il m'avait dit écoute, fais ton lancement chez nous, chez Centre Commercial, et puis Covid s'est repoussé, donc en juin on fait un lancement chez Centre Commercial. Il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues, c'était
trop
n'importe
bien.
Quoi. En plus, il faisait super chaud et il y avait un monde de fous. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu un événement...
aussi réussi.
Ouais. Donc j'étais aux anges et puis j'avais enfin, après autant d'années de travail, autant de temps...
Ouais, c'est
de...
première exposition publique,
ouais,
c'est un gros truc.
Je pouvais inviter les personnes qui étaient là depuis le début, c'était magique. On fait ça et puis... Et puis ensuite...
Là, tu vends, hein, ou tu montres la collection, ou tu vends
Alors, je montre surtout la collection, c'est-à-dire qu'on a fait... Donc, c'était un pop-up sur une semaine, et on a vraiment fait en sorte, le soir de l'événement, de lancement, la lingerie, elle était mise en scène. C'est-à-dire qu'on a bossé avec un scénographe génial qui s'appelle Sati, et qui nous a fait une scéno incroyable, tirée des images de la campagne. On a même fait une peinture... à partir de certaines photos de la campagne. Enfin, c'est allé super loin. L'idée, c'était de faire un effet waouh, que les gens comprennent l'univers de la marque. Je voulais pas qu'il y ait juste des produits posés sur une table.
Je
préférais qu'il n'y ait pas de vente ce premier soir, mais que ça marque les esprits. Et ça a marqué les esprits. On m'en a pas mal parlé après.
Trop bien.
Donc voilà.
La marque, elle se construit littéralement en un an. En un an de Covid, tu lances la marque.
Ouais,
sortir de Covid, boum, tu la présentes.
Ouais.
C'est ouf.
C'est ça. Après, les choses évoluent, évidemment. J'étais encore relativement seule. Donc, je fais ce lancement. Et ensuite, justement, je me retrouve très fatiguée. Parce que, en plus, ça nous a tous fatigués aussi, ce Covid. Mmh. Et ces confinements, on était tous dans un état, je pense, d'extrême fatigue et stress. Donc, je me retrouve fatiguée. Je me dis, OK, là, j'ai vraiment atteint un palier. J'ai lancé ma marque. Je suis hyper fière de tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est important pour moi. Parce que pendant le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir comment je voulais faire les choses. Donc lancer une marque, une énième marque, alors qu'il y en a déjà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je vais pas rajouter des produits, de la consommation, alors que c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui? Comment je vais faire les choses? Comment est-ce que je peux, en fait, tout simplement avoir un impact positif? Puisque je vais si la marque fonctionne, j'aurai un impact. Je vais avoir un impact positif. Du coup, j'ai déjà réalisé que les vêtements, la lingerie, pardon, est un produit qu'on a besoin de produire parce qu'on ne peut pas utiliser de la lingerie vintage. C'est un produit intime. Donc, j'étais pas en porte-à-faux avec mes croyances, mes valeurs en créant des produits nouveaux parce qu'en fait, c'était c'est un vrai besoin. Voilà. Et surtout, en fait, je me suis dit, je vais le faire à ma façon. En fait, je vais essayer, même si ça va me coûter un peu plus cher au début, alors j'ai pas les thunes, même si ça va me prendre plus de temps, tant mieux, il y a le Covid. Je pense que j'aurais pas eu la chance de faire les choses comme ça s'il n'y avait pas eu cette période-là. Ouais. J'ai pris le temps de trouver un atelier en France, donc à Aix-en-Provence. C'est une nana toute seule qui m'a fait toute la première prod. Elle a été chamée, ça a pris du temps, mais on avait un super contact. Je pouvais aller la voir, on s'appelait tout le temps, etc. Très humain. J'ai trouvé un centre de réinsertion à Manosque, à côté de Aix, où en fait, ce sont des femmes, ça s'appelle le réseau Métamorphose, ce sont des femmes battues qui sont réinsérées à travers la couture ou la permaculture et qui ont des horaires, un salaire, etc. Donc, elles s'occupent de tous les pochons de packaging et les envois. Donc en fait, j'ai vraiment fait en sorte...
injecter un maximum de valeur qui te ressemblait dans ta marque.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est OK. Ouais, je suis fière de lancer cette marque. Et c'était des conditions qui étaient nécessaires pour moi. J'ai fait développer des tissus pour la marque qui sont recyclés. Donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Et du coup, j'ai fait ce lancement. J'étais trop fière de ce que j'avais fait, mais j'étais épuisée. Et j'avais plus de thunes.
Ouais, ça c'est une question qu'on va aborder. Comment tu construis financièrement ce projet-là? Tu disais que du coup, t'es retournée chez tes parents pour le confinement.
Vis toujours chez mes parents.
Ok.
Donc pour l'instant, je l'ai construit, ce projet, avec mon chômage pendant 2 ans. Et...
Friends and family money, un petit peu.
Un peu famille, ouais. Okay. Mes parents m'ont prêté un peu d'argent.
Mais du coup, ils ont vu évoluer, ils ont suivi le projet d'hyper près, du coup, et ils continuent, non?
Ouais.
Enfin, ils te voient au quotidien, en tout cas, travailler, avancer,
ils sont,
etc.
Je suis reconnaissante parce que je sais que ça n'a pas été facile pour eux, sincèrement. Je pense que ils auraient préféré que je fasse autre chose.
Du droit.
Ouais. C'est ça. Et je sais qu'ils sont fiers de moi, et je sais que... Et ils me soutiennent beaucoup, même si ça va à l'encontre peut-être de
leur culture,
de sujets qui les intéressent. Et ils vont vraiment au-delà de leurs a priori. Et je vois même que je les fais changer, en fait, sur certains
c'est
sujets.
Beau, ça.
Et maintenant, on arrive à parler de choses avec lesquelles ça aurait été impossible de parler avec eux. Donc, ils ont suivi ça. Du coup, voilà, j'ai commencé avec cet argent-là. Et puis, en ayant très peu de dépenses, en fait, quand tu n'as pas l'argent... tu le dépenses pas.
Tu te débrouilles. Enfin,
normalement,
tu trouves,
débrouille.
Ce que tu disais, j'imagine que ton shoot, ça a été tout le monde a mis la main à la pâte.
Ouais. Exactement.
Et puis, c'est là qu'on est plus créatif.
C'est là que t'es plus créatif. Et puis tu comptes sur ce qui t'anime, la vision, les valeurs pour fédérer. Et en fait, ça marche. Quand c'est sincère, quand c'est authentique, ça marche, en fait. Parce que
y a des filles qui vous ont donné de la force. Moi, j'ai vu... Lila Cardona, Mélodie aussi, genre ça c'est des filles qui sont venues pas pour le produit mais j'imagine ou pour toi ou pour les valeurs que tu défendais, non?
Oui, c'est des amies proches, donc elles me connaissent et donc elles m'ont vu batailler, elles m'ont connue pendant quand je me suis séparée de mon associé, elles m'ont vu vraiment dans tous les, donc elles voient que ça m'anime sincèrement, que c'est en moi, que j'ai juste envie d'aider les femmes, j'ai juste envie de changer quelque chose qui mérite d'être changé, je pense. Et du coup, carrément, je leur ai envoyé des pièces pendant le confinement, elles ont shooté, Sophie et Lila, Mélo, elle me soutient énormément depuis le début, donc complètement. En fait, il y a des personnes qui elles-mêmes sont dans l'industrie, donc qui voient et qui en fait ont envie, je pense comme toi, ces petits anges en fait qui se disent là on a envie d'aider parce que il y a quelque chose qui
bien sûr.
Ouais.
Je sais pas si t'as écouté les anciens épisodes, mais là on est hyper calme avec Nico parce que justement on t'écoute et on sent qu'il y a un propos qui est hyper maîtrisé, hyper réfléchi et c'est hyper cool.
Merci. Donc je pars.
Donc lancement, je te reprends.
Lancement. Ouais, voilà, lancement. Je suis fatiguée. Et là en fait, je me souviens que Mélodie, des personnes autour de moi qui voilà me suivent, m'aident et je leur parle. En fait, je m'ouvre à eux. Je leur dis voilà, là je fatigue un peu, qu'est-ce que je fais, et je parle avec un copain notamment entrepreneur qui a lancé sa boîte, qui maintenant est une très 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 grosse boîte. Ils sont dans plusieurs villes, dans plusieurs états, et lui qui est dans la biotech, qui me propose, en fait il me dit fais rentrer des investisseurs, trouve des financements et tu vas pouvoir vraiment développer la marque, travailler avec des gens, enfin voilà, tu vas pouvoir aller plus loin. Ça, au début ça prend du temps et c'est normal, donc je décide de faire ça. Et donc à la rentrée en septembre, je commence à contacter un certain nombre de personnes. Alors j'avais jamais fait ça, donc au début c'est complètement chaotique. Je me fais engueuler par des copains plus financiers qui me disent mais c'est pas comme ça que tu fais une levée de fonds, t'as aucune structure, t'as contacté 3 personnes.
Non, t'y allais tout seul, alors qu'il y a plein de gens qui utilisent des structures justement pour qu'ils lèvent des fonds pour eux, quoi. Là c'est vraiment...
Ouais, et puis en fait, moi, j'étais toute naïve, je me disais, bah voilà, oui, les gens, ils vont venir à moi, ou je sais pas. Donc, t'apprends tout, en fait. Et du coup, et en fait, là, bah, par chance, comme j'ai des copains qui sont comme Sébastien, comme Pierre-Arnaud Grenade, qui est le DG de Bash, qui était chez Princesse Tam Tam avant. J'ai des copains qui sont qui me suivent et qui me conseillent depuis des années, qui me donnent des super conseils. Donc, en fait, je m'entoure de personnes qui me donnent des super conseils. Et je décide de réunir une team autour de moi. Donc une personne qui va s'occuper du développement produit, une personne qui va s'occuper de l'image, une personne qui va s'occuper du business development, de construire ma petite famille opérationnelle, mm-hmm. de me construire ma famille aussi d'anges qui vont rejoindre l'aventure et qui vont nous permettre de développer développer cette marque. Et voilà, donc là c'est un process qui est presque fini, donc c'était ces derniers mois, et en parallèle de ça on a fait un deuxième pop-up rue Charlot qui a cartonné, ça s'est trop bien passé, c'était génial de rencontrer les clientes, de raconter la marque etc. Et là l'objectif de cette année c'est de lancer les produits avec les armatures 3D mmh. et notre application de scan.
Ok, donc ça, très concrètement, comment tu le vois, comment tu l'envisages ? Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une production sur mesure, donc que ça se fait en plusieurs temps. T'as une première expérience boutique, j'imagine, où tu te scannes, ensuite t'envoies le produit.
T'as pas besoin d'aller en boutique, en fait, parce tu vas télécharger ton application de scan. Donc là, je te parle de... Pour l'instant, on est sur des versions de test. Elle sera disponible dans quelques mois. En fait, tu télécharges ton application.
Ouais.
Et tu te scannes, et à partir de ça, nous, on te. Tu choisis les produits qui te plaisent, parce qu'il y a une vraie collection, tu as différents produits. Et en fait, on va automatiquement créer les armatures, donc le soutien, le support de ton soutien-gorge, mmh. Qui vont être à partir de ta morphologie, et qui sont imprimés en 3D, et qui sont amovibles. Donc en fait, tu peux garder ces armatures, et tu les mets dans tes soutiens-gorge skinswear, tu les enlèves, ou tes maillots de bain. Tu les remets, donc du coup le soutien-gorge s'abîme pas quand il passe en machine. Tu peux vraiment les garder. C'est un produit qui est à toi et tu les gardes. C'est un matériau inaltérable en plus, donc tu peux les garder quasiment toute ta vie. Et voilà. Et en fait, ça va vraiment venir adapter le produit, le soutien-gorge à ton corps. Donc tu choisis un produit qui te plaît.
Mmh.
Voilà, tu choisis uniquement. En fait, tu choisis. T'as plus à te prendre la tête sur. Qu'est-ce qui va m'aller bien ? Tu choisis juste ce qui te plaît. Et nous, on s'occupe de te dire, en fait, voilà, ça va, du coup, ça va être parfait pour ton corps.
Trop bien.
Et moi, je portais plus depuis longtemps de soutien-gorge avec des armatures parce que je trouve ça, c'est hyper douloureux. Et en fait, tout pour développer cet algorithme, j'ai rencontré plein de femmes. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai passé beaucoup de temps avec elles.
Des panels, des choses comme ça. T'as fait des panels, t'as discuté énormément.
J'ai discuté et surtout je les ai vus nus en fait, donc j'ai vu leur corps, je les ai scannés Et je me suis rendu compte de la diversité des corps féminins qui est incroyable et pas représentée. Et aussi, je me suis rendu compte de la souffrance des femmes face à ce manque de connaissance de leur corps.
Mmh.
C'est-à-dire que je me rends compte que beaucoup de femmes sont venues me voir pour que je les valide. En fait, elles avaient besoin
que se dire que ta forme de sein est normale, que
voilà, monter
ton si, que ça. Enfin,
exactement.
Ouais, c'est des discussions qui sont encore une fois très 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 récentes, alors que le corps de la femme est là depuis toujours, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve, de libérer enfin la parole, de pouvoir enfin discuter de ça et de se dire, putain, je suis pas toute seule devant mon miroir d'ado comme une conne à me dire, oh, mais pourquoi je suis comme ça en fait. Tu
totalement.
Vois
c'est ça. Et en fait, cette expérience qu'on a avec notre corps, il est, comme tu viens de le dire, en fait, c'est extrêmement solitaire.
Ouais.
De l'adolescence, donc j'ai rencontré des ados, j'ai rencontré des femmes.
Bah c'est là que tu te.
Qui
allait, enfin, la puberté,
j'ai rencontré
tu te
des
découvres.
Femmes qui ont eu une mastectomie, qui sont monoposées. Et en fait, t'es un peu seul tout là-dedans. Et t'as pas vraiment quelqu'un vers qui te tourner pour te dire si ton cas est différent des autres ou pas. Et en fait, tous les cas sont différents, mais on se rejoint dans cette différence. Et on nous montre, il y a très peu de choses qui sont communiquées. Enfin, en fait, même regarde les pubs pour les serviettes hygiéniques, jusqu'à encore quelques mois, on te mettait du faux sang, des trucs de couleur bleue.
Ouais, bleu, moi c'est
enfin,
bleu.
Enfin, tu vois,
c'est <What is it? rire>
genre, super tabou. Comment veux-tu que la femme n'ait pas honte? Et on ne peut pas poser des questions. Moi, j'ai vu plein de femmes qui ont des poils sur les seins, ont des asymétries vraiment de un ou deux bonnets, ont des troisièmes tétons, mais en beaucoup, beaucoup en fait.
Ouais.
C'est... Il y en a plein, et en fait, c'est des choses qui sont complètement taboues, donc c'est... En fait, quelle que soit notre morphologie, on a l'impression d'être un monstre, et comme on n'est pas dans des cultures de hammam, où c'est pour ça que je disais, on
ouais,
a un
c'est
moment
intéressant
à séparer
ce que tu dis.
Le corps, en fait, le contact avec le corps, on nous a vraiment éloigné du corps naturel.
Ouais.
Je pense que c'est là où ça a été assez nocif parce que ça nous a enfermés avec nous-mêmes en fait. Il n'y avait plus de comparaison, mais la comparaison, pas comparaison malveillante, nocive, mais elle est importante de le regard en fait, de regarder ce qui se passe. Donc l'idée c'est vraiment de créer ce à travers Skinswear cette marque qui est bienveillante. Pour que les femmes puissent ne plus avoir à faire de compromis entre je m'achète de la lingerie que je trouve belle, que j'ai envie de porter, et aussi que j'ai envie de porter pour ce qu'elle incarne. Pour moi, le nouveau luxe, c'est l'éthique. C'est, je pense que j'ai compris que, en fait, l'achat, la consommation est un acte politique, que de toute façon... Aujourd'hui, la politique, en gros, c'est le business. On va pas se mentir. Les hommes politiques, de toute façon, voilà, on sait un peu de quoi ils retournent. Et je pense que moi, c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer, en fait. Je pense que chaque femme puisse se retrouver dans une marque en laquelle elle a confiance et dans laquelle elle se dise, voilà, là, l'argent que je mets, je vais avoir un produit qualitatif qui est fait pour mon confort, qui me respecte. Des personnes qui s'intéressent à moi, à ma condition, et qui va être utilisée de façon saine pour l'environnement, pour l'humain, etc. Donc que ce soit un cercle vertueux. C'est vraiment ce que j'essaie de faire.
C'est hyper, hyper inspirant en tout cas.
Wow.
Merci.
merci pour tout. Hein. Écoute, c'est vraiment super. De toute façon, nous on était conquis. J'espère que nos auditeurs le seront aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on finisse avec nos petites questions? C'est pour quand? Du coup, c'est sur dans ton calendrier, ta première prod, ça va arriver chez les clients quand?
Là, j'ai déjà vendu des pièces de ma première prod. On est en train de trouver un autre partenaire qui va avoir plus de capacité de production en France. Toujours en France. Donc là, on va avoir une deuxième prod au début de l'année. On est sur le salon de la lingerie en janvier. On va avoir du maillot,
trop
notamment,
bien.
Et on va commencer à montrer un petit peu les armatures pour commencer à acheter chez des distributeurs, parce qu'aujourd'hui, on n'a fait que des pop-up. Et du coup, la marque va être... la marque, de toute façon, est vendue et va continuer à être vendue. Et on veut aussi vraiment se développer à l'international, notamment dès que l'app va être en fonction, Je pense que ça va être plus facile. Mmh. Et ça, le développement de l'app et les produits avec les armatures vont être disponibles en courant 2022, je pense, vers le printemps.
Génial.
Génial. Bon, écoute, on va me poser des petites questions de la fin.
Ouais. Je vais juste rajouter, pardon, que tous les produits ne sont pas armaturés pour les filles qui ne veulent pas porter d'armature, ce que je comprends totalement, parce qu'elles n'en ont pas besoin ou... quelle que soit la raison, il y a des bodys, il y a des brassières. L'idée, c'est de répondre à le plus de besoins possible.
Ok, bon, on invite tout le monde vraiment à aller découvrir la marque, en tout cas.
Alors, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ?
De suivre mon instinct.
Pas mal, c'est bien.
Gut feeling. C'est quoi ton talent caché ? Est-ce que tu as un talent caché ?
Talent, je sais pas, j'ai des intérêts. J'aime bien chanter.
Ah.
Et jouer de la guitare.
Est-ce que t'as un guilty pleasure? À part les chaussettes fantasy. Parce que j'ai toutes les chaussettes
fantasy. Un guilty pleasure? Ouais, j'adore manger des crêpes. Je sais pas si c'est un guilty pleasure, mais.
Bah ouais,
j'adore
beaucoup de crêpes. L'emoji que tu utilises le plus?
L'emoji cœur blanc.
Ok. Le dernier compte Insta que tu as suivi ou un compte que tu voudrais mettre en avant ou que tu consultes vraiment très régulièrement, que tu adores Non.
Ça, il doit y en avoir, sûrement. Je.
S'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, t'inquiète.
J'aime bien, c'est un gros compte, je ne sais pas comment le prononcer, Ode an die Freude, je crois que c'est ça. C'est un compte sur les femmes naturelles, la femme sauvage, il y a plein d'inspirations, c'est super. C'est Ode, enfin bon, je crois que c'est Ode an die Freude.
Ok. Tu nous l'enverras, on le partagera.
Ouais.
Et enfin, est-ce qu'il y a une tendance mode ou est-ce qu'il y a une tendance lingerie que tu n'as jamais comprise?
Ouais, bah tout ce qui est push-up, en fait tout ce qui vulgarise le corps de la femme, je comprends pas.
Ok.
Je trouve que le corps peut être, enfin il y a aucun problème avec la sexualité, mais je pense que le naturel peut être, enfin la sexualité c'est beau,
aussi, ouais.
Mais c'est pas forcément dans la déformation en fait. Et je pense que c'est des penchants aussi, même avec le porno, c'est des choses qui sont hyper liées.
Ouais, la gaine, toutes ces choses-là.
Il y a rien de mal contre le naturel, contre faire l'amour de façon naturelle. Et je pense que d'ailleurs. La première collection que j'ai dessinée, il y a beaucoup de transparence, mais c'est pas une vocation de sexualiser. En fait, c'est ok d'avoir le corps est beau tel qu'il est. Donc, j'ai pas envie de le modifier.
Trop beau. Merci encore pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton histoire. C'était trop cool.
Merci à vous.